Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
On est dans Hébreux chapitre 6. Quand on est découragé, de quoi est-ce qu'on a besoin? Eh bien, d'être encouragé. Et de recevoir un encouragement. Mais vous savez comme moi, quand on est bien découragé, un encouragement, des fois, ça suffit pas. Hein. Quelqu'un nous dit, hey, vas-y, c'est facile à dire. Hein. On a besoin d'un puissant encouragement. Est-ce que ça vous irait, un puissant encouragement? Est-ce que ça se trouve quelque part, ça, un puissant encouragement? Bon, on va lire Hébreux, chapitre 6, partir du verset 15. Puis là, on va voir l'expression « puissant encouragement ». Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée, cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, a obtenu les promesses. Pour obtenir les promesses, il est nécessaire de persévérer. Et justement, quand on se décourage, ben, on baisse les bras. Et on ne persévère plus. Et l'encouragement doit nous amener à persévérer comme tout à nouveau et à ne pas s'arrêter sur le bord du chemin, mais bien au contraire à persévérer. Le découragement. Dans au temps de David, souvenez-vous, David était jeune, voilà qu'il y a là un Philistin. Il n'y a pas n'importe lequel. Un géant. Il s'appelle Goliath. Voilà que ce Philistin vient devant tout le peuple d'Israël et dit à tout le peuple, trouvez-moi un homme qui vienne se battre avec moi. Et on fait juste un combat. Évitons de massacrer les armées et qu'il y ait toutes sortes. Non, juste un combat. Et dans ce combat va décider lequel des deux pays, laquelle des deux armées va remporter la victoire. C'est bien comme proposition. Le problème, c'est que d'un côté, il y a un géant. Et de l'autre côté, en Israël, ils n'ont pas de géant. Si encore en Israël, ils avaient un géant de la taille de Goliath, ils pourraient dire, bon, d'accord, c'est à peu près les mêmes forces. Mais là, voilà que d'un côté, il y a un géant qui est là, qui vient narguer l'armée d'Israël, en disant, alors, il n'y a personne là pour venir me battre. Quel est votre plus grand héros, votre vaillant guerrier? Quel est le plus fort parmi vous? Ah ben, quand il faut chercher le plus fort, toujours quelqu'un qui dit « c'est moi le plus fort ». Mais quand il y a un défi comme ça, il n'y a plus personne. Et le plus fort, on a du mal à le trouver. Ça dure un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, six jours, sept jours. On va jusqu'où comme ça? Neuf jours, dix jours. Tous les jours, voilà que Goliath vient en disant « alors, il est où votre héros ?» Ben, on ne l'a pas encore. Le lendemain, il revient. Il revient pendant 40 jours. Vous imaginez une armée qui est là pendant 40 jours, le campement est là. Une armée, c'est pour faire la guerre, mais pendant 40 jours, on fait rien, si ce n'est que d'écouter les insultes de Goliath, qui ne se gêne pas pour insulter l'armée d'Israël en disant « vous êtes des poltrons, vous êtes des trouillards, il n'y a personne ici qui a le courage de venir m'affronter. » Et au bout de ces 40 jours, on comprend qu'il commence à y avoir du découragement quelque part chez Israël. Parce qu'ils disent, il va bien falloir un jour ou l'autre, s'il n'y a personne qui veut aller se battre, ben, qu'on baisse pavillon, qu'on jette l'éponge et qu'on dise, ben, écoute, vous avez gagné. On se bat pas parce qu'il n'y a personne qui est capable de venir te battre, Goliath, vous avez gagné. Mais voilà qu'il y a un petit jeune, David, qui vient dire à Saül, dans 1 Samuel 17:32, il dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Peut-être que d'autres, et on imagine les généraux, les chefs de l'armée, qui sont en train de regarder ce petit-là, David, en train de dire ça, et ils se disent, oui, c'est facile à dire, hein, que personne ne se décourage. Il n'y va pas, lui. Vas-y, justement. David dit, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, moi, ton serviteur, j'irai me battre avec lui. Ah, ils n'avaient personne d'autre. Oui, mais David, il était... Bon, on va essayer de lui trouver une armure. L'armure du roi, ah, c'est la plus belle, c'est la mieux équipée. Alors, on essaye de mettre l'armure du roi à ce berger, David, mais ça lui va pas. Là. C'est trop grand, c'est trop lourd. Il dit, non, moi, je vais faire ça à ma méthode. Pas besoin d'armure. Et David va se présenter devant Goliath. Mais avant de se présenter devant Goliath, il dira à l'armée et au roi que personne ne se décourage. Et on comprend que pour amener de l'encouragement à quelqu'un qui est découragé, il faut avoir quelque chose de concret à apporter. On ne peut pas venir encourager quelqu'un juste avec des paroles, en disant que personne ne se décourage là, ça va bien finir, on va bien s'en sortir. C'est facile à dire. Peut-être que vous avez déjà vécu ce genre de situation où il y avait un temps de découragement. Puis une parole, là, c'est facile, une parole. C'est facile de dire, arrête de te décourager, là, ça va bien finir, ça va bien. Tu verras, tout ira bien. Mais comment tu sais que tout ira bien? C'est des mots, là, c'est des paroles. Et des fois, encourager quelqu'un juste sur des mots, des paroles, l'encouragement vient pas de là. David ne se contente pas de dire à l'armée, au roi, tout ira bien, que personne ne se décourage. Il dit, moi, je vais y aller. Je vais y aller. Et on voit David aller chercher 5 pierres au torrent et aller avec sa fronde affronter Goliath. Vous connaissez ce récit, vous connaissez l'histoire. Et à la fin du récit, il n'y a plus de découragement en Israël. Mais ils sont tous encouragés. Et il y a de la joie. Et l'encouragement qu'ils ont, c'est de dire « Oui, Dieu est avec nous ». Parce que quand David se présente devant Goliath, il ne dit pas « Je suis moi, David ». Non, c'est au nom de l'Éternel, c'est au nom de Dieu que je me présente devant toi parce que tu as insulté le nom de Dieu. Et à la fin, le peuple est là dans la joie et encouragé de voir que Dieu, aujourd'hui encore, est celui qui agit, est celui qui triomphe. Et que même s'il y a de l'adversité, même que s'il y a des Goliaths, même s'il y a des géants, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, avec Dieu, il est encore possible de faire des exploits. Est-ce que c'est possible encore en 2004, avec Dieu, de faire des exploits? Les difficultés, il y a plusieurs manières de voir des difficultés. Là, il y avait tout un peuple qui voyait un géant, c'était le problème. Et ça faisait 40 jours que ça durait. Un problème insurmontable. Un géant, personne ne peut le battre. Mais David, quand il voit ce problème, il voit ça différemment. Il dit pas, oui, il y a un géant, c'est insurmontable. Non, il dit, il y a un problème, il y a un ennemi, réjouissons-nous, parce qu'il faut un ennemi pour avoir une victoire. S'il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas de victoire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on peut avoir des victoires s'il n'y a pas d'ennemis? Est-ce qu'on peut remporter la guerre s'il n'y a pas de guerre? Est-ce qu'on peut être victorieux s'il n'y a pas de combat? Est-ce qu'on peut avoir une médaille, une coupe, s'il n'y a pas de lutte, de combat, de défi? Mais dans ces luttes, ces combats, ces défis, ça prend un adversaire, ça prend un ennemi. Mais maintenant, quand on est là devant l'ennemi, il y a plusieurs façons de voir les choses. Soit de dire, un Goliath est devant moi, nous sommes fichus, c'est fini, on est perdus. Ou de dire, voilà une belle occasion de remporter une victoire. Comme ça que vous voyez les combats, vous? Comme ça que vous voyez les difficultés? C'est comme ça que vous voyez l'adversité? Regardez ce que Joseph va dire à ses frères à la fin de son récit. Il va leur dire tout simplement dans Genèse 50-20, « Vous avez médité de me faire du mal, et on sait que ses frères voulaient même le tuer. » Le prix de remords, il y en a un qui va dire « On va le vendre comme esclave. » Ils ont médité de lui faire du mal, mais Joseph va leur dire tout simplement « Dieu l'a changé en bien. » Vous vouliez me faire du mal, mais quand on est là avec Dieu, Dieu a changé ce mal en bien. Et dans votre vie, est-ce qu'il y a du mal? Est-ce qu'il y a de l'adversité? Est-ce qu'il y a des luttes? Est-ce qu'il y a des combats? Est-ce qu'il y a des attaques? Est-ce qu'il y a des ennemis? Est-ce que ce ne serait pas possible aussi que Dieu transforme ça en bien? Je ne sais pas s'il y en a qui savent faire du judo. J'ai fait du judo, moi. Ça se voit pas? J'ai fait du judo, j'avais 5 ans. J'avais fait pendant un an ou deux, je ne sais plus. Je crois que je suis resté blanc, hein, la ceinture blanche, hein, parce qu'après, il y a des couleurs. Enfin, dans le judo, si j'ai bien compris le principe du judo, parce que bon, on travaille avec la force de l'autre. L'autre attaque, et on utilise la force de l'autre contre lui. Il vous court dessus, il vient avec toute sa force, toute son énergie, et on utilise cette force pour le faire tomber, pour le mettre à terre. Il vient là pour détruire, anéantir, attaquer, et on renverse cette force-là pour que ça se retourne contre lui. Moi, je crois qu'on peut faire du judo spirituel. Et si le diable vient, si notre adversaire vient pour nous attaquer, qu'on puisse renverser ça contre lui. Alors ça veut dire que plus il attaque fort, plus il s'en prendra. Plus il attaque fort, plus il va s'en récupérer une contre lui. Non? Et c'est pas moi qui le donne, c'est pas ma force, c'est la sienne. Vous aviez médité de faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Et plus le diable voudra venir comme nous attaquer, nous défier, nous mettre à terre, nous anéantir, Dieu veut nous aider à renverser ça et que ça se transforme en bien. Connaissez Romains 8, 28 par cœur? Non? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que tout ce qui arrive, c'est bien? Non, on n'est pas comme ça. Et c'est pas ce que l'apôtre Paul veut dire aux Romains en disant, écoutez, là, tout ce qui vous arrive, c'est bien. Non. Tout ce qui vous arrive, c'est pour votre bien. Peut-être. C'est Irénée, est-ce qu'on voit la différence? Entre tout le mal qui t'arrive, c'est bien. Non, c'est pas bien, c'est du mal. On ne va pas appeler le mal bien. Si quelqu'un est en train de nous taper dessus, on ne va pas dire ça me fait du bien. Non, ça me fait du mal. Mais maintenant, ce mal peut être transformé en bien. Et toute chose concourt. Toute chose peut concourir, peut finalement, en bout de course, amener du bien. Et là où le diable voulait, ou notre ennemi voulait nous anéantir, nous mettre à terre, Dieu veut le transformer en bien, tout comme il le fit pour Joseph. Vous aviez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. L'apôtre Jacques dit, dans le premier chapitre, verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Vous voulez vous réjouir ce matin? Regardez tous vos problèmes. C'est ce que dit Jacques. Vous voulez vous réjouir ce matin? Regardez tout ce qui vous fait mal, tout ce qui vous embête, tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous trouble. Regardez comme un sujet de joie complète, une joie parfaite, une joie complète, toutes les épreuves que vous pouvez, dans lesquelles vous pouvez être exposé. Toutes les épreuves dans lesquelles vous êtes exposé, vous pouvez, et c'est à vous de décider, mais vous pouvez regarder ça avec joie et en faire vraiment une joie complète. Merci Seigneur pour tous les problèmes. Je me réjouis. Merci pour Goliath, Seigneur, pouvait dire David. Je me réjouis pour ce Goliath. Et les autres pouvaient dire, tu te réjouis, nous on est tous découragés à cause de ce Goliath. Et pourquoi toi tu te réjouirais à cause d'un géant? Pourquoi est-ce que tu te réjouirais à cause d'un ennemi, d'un adversaire qui vient nous narguer? Et David pourrait répondre, je me réjouis parce que je vais lui trancher la tête et parce que ça va glorifier le nom de Dieu. Et il y avait déjà de la joie parce que par la foi, il voit la victoire. De la même manière dans nos vies. Alors qu'il peut y avoir des difficultés, alors qu'il peut y avoir toutes sortes de problèmes, alors qu'il peut y avoir des épreuves, eh bien on peut d'ores et déjà nous réjouir dans notre cœur en disant, s'il y a un ennemi, il peut y avoir une victoire. S'il y a une difficulté, il peut y avoir un triomphe. S'il y a un problème, il peut y avoir une solution qui vient de Dieu et qui vient honorer, glorifier Dieu. S'il frappe fort, ça peut se retourner contre lui. Et déjà se réjouir pour l'issue, déjà se réjouir pour le résultat, pour le bien que ces choses peuvent amener, ça va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans le passage de l'Épître aux Hébreux que nous avons lu ensemble, il est question des héritiers de la promesse. Nous sommes les héritiers de la promesse. Et il dit que Dieu a voulu montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Dieu veut nous montrer ce matin, d'une manière évidente, et que chacun en reparte de ce lieu convaincu. Dieu veut nous montrer avec plus d'évidence l'immuabilité de sa résolution. L'immuabilité, c'est quoi ça, l'immuabilité? Déjà, c'est dur à dire. Il faut que ça rentre après dans les oreilles. Alors, en français courant, c'est plus facile. Dans la Bible, en français courant. Dieu a voulu montrer encore plus clairement à ceux qui devaient recevoir les biens promis que sa décision était irrévocable. Est-ce que c'est plus clair, irrévocable? Oui, comme ça. Hein. Des fois, on veut un mot plus simple. Au lieu d'immuabilité, on prend irrévocable. Ça veut dire que ça ne peut pas changer. C'est immuable, ça veut dire que ça ne changera pas. Il n'y a pas l'ombre de variation là-dedans. Dieu veut montrer que c'est un principe éternel, que ça ne bougera pas, qu'il pourrait y avoir tout, vent, force, marée, tempête, ça ne bougera pas d'une once. C'est ça? Une once, on dit, non? J'allais dire d'un millimètre, d'un pouce. Un pouce, voilà. Ça ne bougera pas d'un pouce. Parce que c'est immuable, c'est irrévocable, ça peut pas changer. Je m'adresse aux princes charmants, là, s'il y a des princes charmants au milieu de nous qui veulent parler à leur bien-aimé, dit, mon amour est immuable, je vais te prouver l'immuabilité de mon amour. Ça fait beau, hein? Bon. Donc, on est là, nous, avec l'Épître aux Hébreux, Dieu lui prouve. Et même, il insiste, en disant par deux choses qui peuvent pas changer, invariables, immuables, irrévocables, deux choses que personne ne pourra détruire, ne pourra remettre en question, au travers de ces deux choses immuables, dans lesquelles, et il insiste fort, il est impossible que Dieu mente. C'est fiable, c'est solide, c'est impossible que Dieu mente. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est pas possible que Dieu mente. Il parle vrai. Eh bien, dans ces deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Et le puissant encouragement dont certains peut-être ont besoin ce matin, nous allons le trouver dans deux choses qui sont solides. C'est du béton, c'est fiable, c'est immuable, c'est irrévocable. Un puissant encouragement est dans ces deux choses. Et quelles sont ces deux choses? Premièrement, on l'a lu ensemble. Premièrement, on l'a pas lu ensemble ce matin? Allô? Premièrement, la promesse. Vous le relirez tranquillement, c'est peut-être immuable qui vous a troublé là. Par deux choses. Verset 17. C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, l'immuabilité de sa résolution intervient par un serment, afin que par deux choses dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous puissions trouver un puissant encouragement. Et ces deux choses, c'est la promesse et c'est le serment. Premièrement, la promesse. L'apôtre Jean nous dit lui-même dans sa première épître, chapitre 2, verset 25, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Ça, c'est déjà la promesse, la plus grande des promesses. La promesse qui, déjà, dans l'Ancien Testament avait été proclamée, Jésus est venu confirmer, attester, concrétiser cette promesse. En lui, nous avons la vie. Ça, c'est la promesse. La promesse dans laquelle il est impossible que Dieu mente. Une promesse de vie, une promesse de salut, une promesse de bonheur. Mais ça peut être des promesses peut-être plus spécifiques ce matin. Une promesse de guérison, une promesse de secours, une promesse de restauration, ou alors une promesse, ce qui concerne nos enfants, salut de nos enfants, en ce qui concerne notre famille, nos proches, en ce qui concerne notre église, en ce qui concerne notre ville. Est-ce que vous avez des promesses? Est-ce que Dieu vous a donné des promesses? Peut-être quelqu'un dira, mais moi, Dieu m'a pas donné de promesses. Dieu est un Dieu de promesses. La Bible est remplie de promesses. Je crois que c'est le frère Wilkerson qui a fait un petit ouvrage où il y a 366 promesses, une par jour. Il me semble que avoir vu ça quelque part, mais ça remonte à longtemps. La Bible est pleine de promesses. Mais il y a des promesses qui sont pour tous, de manière générale. Il y a peut-être des promesses plus spécifiques. Dieu a parlé à votre cœur, a mis une promesse dans votre cœur. Est-ce qu'on peut se rappeler ce matin que dans une promesse, c'est irrévocable, c'est immuable, il est impossible que Dieu mente. Ce que Dieu promet, il l'accomplit. Ce que Dieu promet, il le fait. C'est Dieu qui promet. Ah, quand un homme promet, des fois, on est déçu dans la promesse des hommes. Surtout quand c'est dans des fins politiques ou pour être réélu. Là, il y a des promesses qui sont faites, mais après, on peut être déçu. Mais quand c'est Dieu qui promet, c'est pas la même chose. Il est celui qui promet et qui accomplit la promesse. Dans Éphésiens 1, 3, il est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » En Jésus, nous avons été bénis. Et c'est comme du passé, nous avons été. Et l'apôtre Paul confirme cette idée dans 2 Corinthiens 1, 20, « Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu. » Voilà ce que Paul dit aux Corinthiens. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Avec ta phrase peut sembler compliquée, là. En ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. Et nous prononçons l'amen. En lui. Pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous me suivez? La promesse, c'est en Jésus qui est le oui. Vous savez, des fois, ça prend un oui. Quand on a des papiers pour l'immigration, les gens ont fait quelque chose, il faut un oui. C'est pas le tout de remplir un dossier. C'est pas le tout de remplir un formulaire. Il faut que ça passe dans les couloirs de l'administration, puis qu'à la fin, ça arrive dans un bureau où il y a comme un coup de tampon, où il y a une signature finale qui est un oui ou un refus. Mais qui est là, une signature finale. Et il faut un oui. Et on comprend qu'une promesse, une parole ne suffit pas. Il faut un moment précis qui est comme un sceau, un cachet qui vient attester que ce qui a été promis se réalise en Jésus. Et ce oui de toutes les promesses de Dieu. C'est ce que nous dit Paul aux Corinthiens en ce qui concerne toutes. Et n'allez pas chercher l'accomplissement des promesses ailleurs. Je sais bien que vous n'irez pas à Notre-Dame de Lourdes ou à je ne sais où, auprès de je ne sais qui, auprès de quelques actes superstitieux ou autres. Le oui se trouve en Jésus. Et c'est en Jésus qu'on trouve l'accomplissement de la promesse. Il est le oui. Mais pour notre part, nous avons à prononcer l'amen. Ça veut dire quoi, amen? J'allais dire que certains auraient pu répondre, amen la promesse. Non, c'est pas ça. Amen. Ça veut dire quoi, amen? Vous êtes tous d'accord, là? Amen. Bon, amen. Comment on dit amen en grec? Amen. Voilà. Comment on dit amen en hébreu? Amen. Ah, ça, c'est pratique, ça. Ouais, déjà, vous connaissez un mot en grec et un mot en hébreu. En français, en anglais, en allemand, en italien, en espagnol, et dans beaucoup de langues, amen. Le mot amen vient d'un mot hébreu, une racine amen, c'est un verbe qui veut dire je crois, je mets ma foi dans. Et quand on dit amen, ça veut dire j'y crois. Et je mets ma foi dans cette déclaration. Ça ne veut pas seulement dire je suis d'accord, ça veut dire je mets ma foi dans cette parole et je sais qu'elle s'accomplira. Et quand nous sommes appelés à prononcer l'amen concernant le oui en Jésus, c'est-à-dire que je mets ma foi dans Jésus. J'y crois, je suis d'accord, je mets ma foi dans le oui que Jésus a accompli à la croix du calvaire. Parce que c'est à la croix que tout a été accompli. C'est par la foi, nous dit Hébreux 11, vous savez, par la foi. C'est par la foi, bien que d'autres ont pu vaincre des royaumes, exercer la justice, parce qu'on n'a pas les noms là, obtenir des promesses. C'est par la foi qu'ils ont obtenu des promesses. Par la foi, on reçoit ces promesses. Abraham, parce que dans le contexte de Hébreux, il est question d'Abraham. Abraham avait reçu une promesse. Mais au chapitre 15, Dieu va venir renouveler la promesse, venir confirmer la promesse. Et il faut reconnaître que Abraham, c'est pourtant le père des croyants. C'est peut-être celui qui a le plus de foi. C'est notre modèle dans la foi. Mais même Abraham a eu besoin que Dieu reconfirme la promesse. Peut-être quelqu'un dira, moi j'ai besoin que Dieu me la reconfirme tous les jours. Parce que des fois Dieu me parle là, dans un moment de prière, dans une réunion, on est bien, c'est vrai, je repars de ce lieu en disant, c'est vrai Seigneur, je serre ta promesse sur mon cœur, elle s'accomplira, j'y crois. Et puis quelques heures plus tard, ou quelques jours plus tard, on dit, Seigneur là, c'est vrai cette affaire, ça va vraiment se dérouler comme ça? Qu'on puisse la réaliser ce matin, qu'il est impossible que Dieu mente, et que cette promesse est immuable, irrévocable. Dieu accomplit une promesse. Et pourtant, il va voir Abraham pour renouveler cette promesse. Et des fois, il est nécessaire dans nos vies aussi que Dieu vienne comme renouveler cette promesse, mais que nous ne manquions pas de foi lorsqu'il nous parle, puissions mettre notre foi, notre amen, dire j'y crois. Je crois dans l'accomplissement de cette promesse. Quand Dieu va venir renouveler cette promesse à Abraham, Abraham est dans sa tente et il va dire dans Genèse 15:5, Abraham, il va conduire Abraham dehors. Il va lui dire, sors de ta tente. Et c'est important ce qui nous concerne, de sortir de notre tente. De ne pas rester là enfermé dans notre tente avec une petite vision du monde, une petite vision des choses, et de dire, je vois rien arriver. Si tu es dans ta tente, tu vas pas voir de grand chose arriver. Si tu veux voir quelque chose arriver, il faut sortir de ta tente. Il faut que tu aies un horizon plus large, il faut que tu aies un horizon plus vaste. Alors Abraham sort de la tente, et il sort de sa tente. Mais on est là en pleine nuit, et c'est dans le désert, et Abraham peut répondre à Dieu, mais je vois rien, Seigneur. C'est noir. Tu me dis de regarder, je vois rien, Seigneur, il fait noir. Et Dieu va lui dire, lève les yeux, regarde au ciel, regarde ces étoiles qui sont dans le ciel, regarde ces étoiles qui sont comme une multitude, ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles dans le firmament. De la même manière, bien souvent, on peut être découragé et de dire, je vois rien arriver, mais reste pas dans ta tente repliée sur toi-même. Tu veux recevoir ce puissant encouragement. Sors de ta tente. Arrête de regarder à terre. Arrête de regarder en bas. Arrête de regarder aux problèmes, aux difficultés, de regarder en bas, regarde en haut. Arrête de regarder en bas, regarde en haut. Abraham, arrête de regarder dans ta tente, arrête de regarder en bas, lève les yeux vers le ciel. Parce que, ça écrit comme ça dans le psaume, d'où me viendra le secours ? Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Arrête de regarder vers les montagnes pour chercher le secours. Le secours me vient d'en haut. L'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Le secours vient d'en haut, le secours vient de Dieu. Ce matin, arrêtons de regarder en bas, de regarder aux problèmes, de regarder aux difficultés, mais regardons à la promesse qui vient d'en haut, qui vient d'en haut, une promesse qui est peut-être au-delà de ce qu'on est capable de concevoir. Imaginez Abraham, il n'a pas un enfant, il est âgé, et voilà que Dieu lui dit, ta descendance sera aussi nombreuse que toutes ces étoiles qui sont dans le ciel. Dieu, des fois, nous donne des promesses qui nous dépassent, mais il est impossible que Dieu mente. Et là, l'histoire nous a montré qu'en effet, Abraham a eu une descendance innombrable, et d'un point de vue spirituel, nous sommes aussi appelés les enfants d'Abraham et les héritiers de la promesse. Arrête de regarder dans ta tente, de regarder en bas, de regarder dans le noir. Lève les yeux vers le ciel, qu'on puisse lever les yeux vers le ciel. Il y a donc un puissant encouragement dans deux choses, dans lequel il est impossible que Dieu mente, dans la promesse et dans le serment. Le serment. Est-ce que Abraham avait besoin que Dieu lui fasse un serment ? Est-ce que Abraham avait besoin que Dieu lui prouve quoi que ce soit ? On a dit tout à l'heure que Abraham, c'est notre héros dans la foi. C'est notre modèle, c'est celui qui croit. Et Abraham n'a pas besoin de serment. La foi, la parole, la promesse lui suffit. Si quelqu'un vous fait une promesse, quelqu'un vous fait une parole, je te promets que je viendrai à Noël. Bon. Tu peux me mettre ça sur papier, là, puis tu signes aujourd'hui, je suis signé. Atteste que, saint de corps et d'esprit, je viendrai à Noël et j'amènerai le dessert. Tu notes bien, hein. Tu me dis que tu apportes le dessert, mais mets-le moi par écrit, là, et signe. Comprenez que quand on demande un papier, quand on demande une signature, et qu'on a quelques doutes, c'est qu'on a besoin d'être rassuré. Mais Dieu non seulement fait la promesse, non seulement parle, mais va jusqu'à donner un serment. Abraham avait-il besoin d'un serment ? Peut-être pas. Peut-être que nous, ce matin, on ressemble plus à ceux qui disent « Oui, oui, tu promets, mais donne-moi quelque chose de solide, de fiable. Mets-moi ça par écrit, signe et prouve-le-moi. » Dire « Non, on n'est pas comme ça quand même. » Vous croyez autant qu'Abraham ? Votre foi est si forte ? Votre foi est si grande ? Parce que honnêtement, on ne peut pas reconnaître ce matin que bien des fois, Dieu nous fait une promesse et on a du mal à croire. On dit « c'est incroyable ». On y croit ou on n'y croit pas ? C'est tellement grand, c'est incroyable. J'y crois, mais c'est incroyable. Ben, si c'est incroyable, comment tu peux y croire ? C'est tellement grand. Mais Dieu fait de grandes choses. Et Dieu, pour venir là nous aider dans la foi, venir nous aider, nous soutenir dans la foi, venir là comme nous donner un point de référence, fait un serment. Et Dieu fait un serment aux héritiers de la promesse. Et nous en avons parlé ce matin. Et nous en sommes souvenus au travers de cette alliance que Dieu a traité envers nous. Ceci est mon sang, dit Jésus, le sang de l'alliance qui est répandu pour le pardon des péchés. Jésus a versé son sang comme la garantie, le serment, l'attestation d'une alliance que Dieu fait avec les hommes. Et Dieu signe avec son propre sang. Et l'œuvre de la croix et là comme le sceau, le gage, le serment. que Dieu accomplit sa promesse. Il l'avait dit auparavant dans la bouche des prophètes. Il avait fait la promesse, on peut dire, de manière, si on veut imager l'Ancien Testament, c'est la promesse, et le Nouveau Testament, c'est le serment. Et il y a là donc un serment accompli à la croix du calvaire. Un serment, une alliance que Jésus fait. Aux Colossiens 2:13, c'est un passage important. Peut-être que ça vaudrait la peine qu'on le tourne ensemble. Colossiens chapitre 2, verset 13. Colossiens, chapitre 2, verset 13. C'est le genre de passage qu'on peut souligner dans sa Bible et apprendre par cœur. Colossiens, chapitre 2, verset 13. Vous, qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en vous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Amen. On voit que là, la croix, c'est le point central, que à la croix, Jésus a cloué sur cette croix l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et c'est quoi cet acte dont les ordonnances nous condamnaient? C'est la loi. C'est la loi de Moïse. C'est la loi de Dieu. Une loi qui atteste, prouve que nous sommes coupables, que nous sommes pécheurs, que nous sommes bien misérables et loin du plan et de la volonté de Dieu en ce qui concerne l'humanité. Mais Jésus est venu là prendre notre acte de condamnation et l'a cloué à la croix et a mis un sceau sur cet acte, a tamponné un mot. C'était l'Estaï. En grec. Vous savez, des fois, on a une facture. Vous avez des factures à payer. Ça vous arrive d'avoir des factures à payer? Il y a des commerçants, ils ont des tampons rouges. Et il y a marqué « Payer ». Et quand vous allez pour payer votre facture, ben, ils prennent cette facture et ils mettent en travers de la facture « Payer ». Ils mettent la date, le numéro du chèque, enfin, ils font comme ils veulent. Mais il y a un grand tampon rouge là qui est là et qui est marqué « Payé ». Eh bien, Jésus, à la croix, a pris notre facture, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, a pris notre facture, tout ce que l'on devait à Dieu, et l'a cloué à la croix en mettant un coup de tampon, ça va, vous me comprenez avec tampon, d'estampe, comme ça qu'on dit. D'étampe, pardon, un coup d'étampe, et il y a marqué dessus, en grec, tétélestai. Nous, on met payé, mais là, il y a marqué tétélestai. Et comment ça a été traduit, ça, en français? Quand Jésus prie sur cette croix, un mot sort de sa bouche, tétélestai. Tout est accompli. Et c'est ce mot-là, qui était utilisé déjà, tant de Jésus. Comme pour mettre sur les factures en disant c'est payé, c'est acquitté, il n'y a plus rien, c'est fait, tout est accompli, tout est payé, tout est fait. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. À la croix, c'est un serment, une alliance que Dieu donne aux hommes par son propre sang. Il accomplit l'acte, il a cloué l'acte et il a éliminé. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Est-ce qu'on réalise ce matin que, alors que Jésus est en train de mourir sur le bois de la croix, toutes les forces du mal, toutes les autorités, les dominations ont été livrées en spectacle et que Jésus a triomphé d'elles par la foi. Et que si nous réalisons que le oui est en Jésus et que nous mettons notre amen en lui, notre foi en lui, eh bien nous sommes participants de sa victoire. Et que la victoire de Jésus à la croix, elle est totale. Alors si nous sommes en lui, nous avons la même victoire. Si nous sommes en lui, nous aussi, nous sommes vainqueurs sur toute autorité, sur toute domination, sur toute principauté, sur toute adversité, sur tout problème. Réalisons ce matin que en lui, il y a une promesse et il y a un serment. Et que ce serment a été manifesté à la croix. Qu'on n'oublie pas ce que Jésus a fait pour nous sur le bois de la croix. Qu'on ne puisse pas oublier ce matin la valeur de ce sacrifice. Non seulement concernant le rachat de nos âmes, non seulement concernant le pardon de nos fautes, mais concernant aussi la victoire, le triomphe, la position maintenant que nous avons en lui. En lui, il nous a assis dans les lieux célestes, dit Éphésiens 2. En lui, nous sommes en lui. Il y a une promesse, il y a un serment. Et au travers de ces deux choses, nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, nous pouvons trouver un puissant encouragement. Que personne ce matin ne se laisse accabler, ne se laisse décourager, parce qu'il y a une promesse, parce qu'il y a un serment. Quelles que soient les raisons, les causes, les luttes, les combats et les difficultés, il y a une victoire en Dieu. Il y a un triomphe. Le mal, vous dites, mais quand même là, il y a du mal, je souffre, c'est difficile. Oui, la situation est difficile. Je ne dis pas le contraire, je ne dis pas, non, tout est beau, c'est que vous avez... Non, il y a des situations difficiles. Mais ces situations difficiles peuvent conduire à une plus grande bénédiction que la difficulté que dans laquelle vous êtes. Pour ma part, j'ai compris, j'ai réalisé, j'ai constaté, j'en fais pas une loi ou un principe, on va dire que c'est une constatation. Vous savez, quand on veut aller quelque part, quand Dieu nous conduit quelque part, et dans quelque chose de bon, le diable n'est pas toujours d'accord. Non ? Quand Dieu veut nous amener là dans une position d'autorité, une position de victoire, le diable n'est pas d'accord ? Est-ce qu'il va laisser faire là ? Est-ce qu'il va laisser faire l'église de Drummondville là, disant nous, on veut aller la sauver là, les perdus dans cette ville ? Est-ce que le diable va dire, c'est bien, je vais vous encourager, est-ce que je peux vous aider ? Non. Aussi, si on avait d'autres projets, si notre projet c'était de parler mal les uns envers les autres, c'était de dire il y a tel problème, là le diable il va venir nous aider. Mais si nos projets sont ceux de Dieu, et si ces projets sont contre les œuvres du diable, ben, plus le diable, vous savez, il n'est pas bête, hein, il est rusé. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Il est rusé, il est calculateur, et il voit où il y a le danger. Vous voyez, c'est comme quand il y a un combat, une lutte, des adversaires, on dit, ouh, il faut que je me méfie de telle ou telle personne. Oh, celui-là, je n'ai pas à m'en méfier. C'est un chrétien, tranquille, là, il n'a pas l'air, il va pas faire trop de dégâts. Lui, là, il est un peu trop consacré, là, il faut que je lui mette quelques pièges sur son chemin. Lui, il prie un peu trop, là. Lui, il a un peu trop de... Et le diable, il voit où sont les dangers en ce qui le concerne. Et il vient là pour décourager, pour empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Ça peut être vrai dans nos vies personnelles. Moi, j'ai cru constater que bien souvent, à des moments très précis de notre vie, là où il y avait une bénédiction, une grâce, quelque chose de bon qui nous attendait, c'est là où le diable vient mettre ses coups les plus bas et les plus forts pour nous empêcher d'emprunter ce chemin. Ça a été le cas pour Drummondville. alors qu'on s'apprêtait à venir dans cette église, alors que le Seigneur avait commencé à parler à notre cœur, le diable a voulu nous empêcher. C'est là que ma femme a perdu cet enfant qui était dans son ventre depuis 5 mois. Le diable essaye là de nous anéantir, de nous décourager, pour pas que la volonté de Dieu s'accomplisse. Moi, j'ai des promesses pour Drummondville. Je veux les tenir. Et c'est pas le diable qui va m'empêcher d'avancer. Et c'est pas les difficultés, c'est pas les combats, et c'est pas ces choses-là. Parce que, je vais vous dire mon raisonnement, plus le diable s'y met fort, plus je me dis, c'est que ça en vaut la peine. C'est qu'il y a quelque chose de bon, là, pour qu'il se réveille comme ça, là. S'il veut m'empêcher d'y aller, ben, j'irai. S'il veut m'empêcher d'y aller, c'est peut-être que, s'il voulait pas m'empêcher d'y aller, c'est peut-être que je suis en train de me tromper, là, en fait, en disant, s'il me dit, vas-y, t'es sur le bon chemin, continue. Oh, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin, là? Et s'il dit non, c'est pas là, et qu'il veut nous empêcher d'avancer, faut pas. Faut être sûr des promesses que Dieu nous a données, et dire, mais, je veux pas lâcher ma promesse, je veux pas lâcher la bénédiction que Dieu m'a promise. Je veux pas reculer et puis changer de direction. Dieu a des plans qui sont parfaits, des plans qui sont droits, des plans qui sont justes. Je veux marcher dans ses voies. Si le diable vient pour vous décourager ce matin, que vous puissiez faire comme Jacques en disant « Regardez comme un sujet de joie parfaite toutes ces épreuves. » Parce qu'il y a quelque chose de bon derrière tout ça. Il y a peut-être des moments difficiles, oui, des combats, des luttes, mais il y a aussi des victoires, il y a aussi des triomphes, il y a aussi la gloire de Dieu qui veut se manifester. Qu'on puisse ce matin trouver un puissant encouragement dans la promesse et dans le serment. Moi, j'ai cru remarquer, je sais pas, mais cette semaine, c'était peut-être la pire de tous depuis que je suis à Drummondville. Il n'y a jamais vu autant de problèmes qui sont arrivés dans mon bureau, de droite et de gauche. Je me dis, mais pourquoi tout arrive d'un coup comme ça? Ben, si je veux être logique avec moi-même, c'est que quelque chose de bon qui s'en vient. Je ne veux pas me laisser décourager par ça, au contraire, ça m'excite. En disant, Seigneur, là, il y a de bonnes choses. Là. Ça commence à brasser, ça commence à bouger. Pas pour qu'on s'arrête, c'est pas pour qu'on baisse les bras. C'est pour qu'on persévère et qu'on obtienne la promesse. L'apôtre Pierre pouvait dire, soyez sobre, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous allez dire, ah ben oui, mais alors, si le diable rôde comme un lion rugissant, il y a de quoi avoir peur. Est-ce que vous avez peur du lion rugissant? Est-ce qu'il n'y a pas de lion là, hein? Le diable rôde comme un lion rugissant. Est-ce qu'il peut nous atteindre? Est-ce qu'il peut nous toucher? Ah, il peut rugir, il peut faire du bruit. Il peut chercher qui il dévorera. Mais moi, je suis à côté du plus fort. En Jésus. Souvenez-vous de David, quand le lion venait pour manger une brebis, il allait enseigner le lion en disant « cette brebis, c'est pas à toi, c'est à moi. » Et le lion se prenait des coups de bâton suffisamment pour qu'il ne revienne plus. Vous voyez, vous, avec un bâton, là, aller menacer le lion et l'ours. Peut-être que l'ours, on comprend mieux au Québec ce que ça peut faire. D'aller chercher une brebis dans la gueule d'un ours et puis de faire fuir l'ours et de récupérer sa brebis. David était un bon berger. Jésus est notre bon berger. Et s'il y a un lion, s'il y a un ours, il a déjà triomphé à la croix. Et il nous demande, en ce qui nous concerne, d'être vaillants et téméraires, parce qu'en lui, nous sommes vainqueurs. En conclusion, on va lire ensemble dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. Alors, je vois à l'horloge qu'il me reste 2 heures encore. C'est ça? Non? Je sais pas quelle heure il est, là. Hein? J'ai pas 2 heures. 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. Alors oui, c'est un, une exhortation que Paul fait à Timothée, jeune serviteur de Dieu, mais qu'on peut s'approprier chacun pour notre part ce matin. 1 Timothée, chapitre 4, verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse. Les jeunes disent Alléluia. Mais sois un modèle pour les fidèles. Ah, ça c'est pour les jeunes aussi. Sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Sois tous des modèles. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Est-ce que vous vous appliquez à la lecture de la parole de Dieu? À l'exhortation, à l'enseignement. Et voyez que dans ces trois choses lesquelles jeune Timothée doit s'appliquer, à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Et l'exhortation vient là comme en deuxième. Dire Timothée, c'est pas seulement un enseignant qui doit enseigner la parole de Dieu, mais il faut aussi exhorter. On pourrait dire exhorter, encourager. Applique-toi à encourager. Qu'on soit de ceux qui encouragent notre frère et notre sœur. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Seigneur, comme l'exhortation qui a été faite à Timothée, nous voulons nous donner à ces choses tout entier. Non pas un peu, Seigneur, mais y mettre notre cœur, y mettre notre zèle, y mettre notre volonté dans ta parole, dans l'encouragement. Tu connais mes frères, mes sœurs qui sont peut-être découragés ce matin. Seigneur, que par ton esprit, par cette promesse et ce serment, ils puissent recevoir un puissant encouragement. Parce qu'avec toi, il y a la solution, le remède, la victoire, le triomphe. Oui, nous sommes vainqueurs dans le nom de Jésus. Oui, à la croix, notre adversaire a été défait, a été déchu. Il n'a plus rien à dire. Nous sommes en Christ plus que vainqueurs. Seigneur, alors que le diable essaye de nous arrêter, essaye de nous détourner, nous voulons, Seigneur, regarder comme tout à nouveau à ta promesse, lever les yeux au ciel et dire « Oui, il est impossible que Dieu mente. Ce qu'il a promis, il l'accomplira. » Merci pour l'engagement de la croix. Merci pour la nouvelle alliance. Merci pour ce serment en ton sang. Seigneur, ce matin encore, oh, mes paroles ne suffisent pas. Mais que ton esprit, que ce soit toi, qui puisse là venir encourager, fortifier, renouveler dans le nom de Jésus. Que chacun puisse trouver un puissant encouragement. Ô Seigneur, glorifie-toi maintenant. Amen. Alléluia. Alléluia. Je sais que le temps a passé. J'ai invité les musiciens à venir. Est-ce que ça vaut la peine qu'on prenne un peu plus de temps ce matin? Qu'il n'y en ait pas qui repartent de ce lieu découragés comme ils sont venus, mais puissamment encouragés. Le Seigneur veut rebâtir ta foi. Que faut-il faire? Simplement viens à lui, simplement crois. On va juste chanter ce chant quelques instants, on peut rester à notre place, on peut se lever à notre place aussi et dire Seigneur, je veux me rapprocher de toi. Je veux entendre ta voix, je veux que tu renouvelles ta promesse dans mon cœur. Je veux Seigneur croire dans tes promesses. Je veux réaliser la force, ce que signifie ce serment que tu as fait à la croix du calvaire. Seigneur, je veux venir dans ta présence. Je veux entendre ta voix. Je veux que tu rebâtisses ma foi, que tu me redonnes courage dans cette matinée. Seigneur, nous croyons dans tes victoires. Nous croyons dans tes promesses. Je te prie pour mon frère, ma sœur, qui est particulièrement découragé ce matin. Sois sa force, sois son soutien. Sois pas un petit encouragement, non, un puissant encouragement. Dans le nom de Jésus. Amen.
Enseignement.com
enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.